L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Péninsule d'Iverac, comté de Kerry, Irlande. Le bout du monde. Paysages côtiers et collines verdoyantes se succèdent et se chevauchent-elles des contrées du bout de l'existence. Ici, la nature est maîtresse et les hommes ne sont que des faire-valoir. Ce matin, le vent qui s'immisce sous la carlingue de la vieille Jeep ronronnante sur le bitume est froid. Impitoyable. Au volant, un jeune homme qui vient d'attraper ses 25 ans fume clope sur clope. L'habitacle n'est qu'un brouillard épais, crasseux. La fumée qui s'échappe par la fenêtre entrouverte semble contaminer le paradisiaque anneau de Kerry, qui s'étend là, sur près de 180 kilomètres. Kurt Cobain est mort depuis 5 mois. Le suicide de la superstar du rock américain a plongé dans les abîmes le groupe dont il était jusqu'alors le leader et la figure centrale, Nirvana. Pour ceux qui sont restés sur le seuil de la porte, retenus par la vie, mais les yeux tournés vers la mort qui a emporté leur pote, c'est depuis le grand vide. Dave Grohl est l'un de ceux-là. Le batteur du groupe n'est pas en Irlande pour faire du tourisme. Il fuit. Roule pour une liberté qui ne fait que se détourner de lui. Son passé le traque. L'acharnement. Le poursuivra-t-il jusqu'au bout du monde? Ça se pourrait bien. Nous sommes le 5 septembre 1994, il est 10h30, et c'est l'heure H de mon histoire. Dave est un gamin comme il en existe des milliers aux États-Unis. Perdu, le nez dans les étoiles, victime collatérale d'une jeunesse qu'il n'aura jamais su appréhender correctement. Au volant de la carlingue de location qui le guide le long du bord de mer d'Irlande, les traits tirés par le souci qui le bouffe depuis des mois, il repense à sa mère, à ses parents et à cette vie heureuse qu'il a eue avec sa sœur jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis le divorce de ses aînés, le déménagement chez sa mère, le punk, la marijuana et les soucis, évidemment. Elle avait cru bon, la mère Grohl, d'encourager son fils à faire de la guitare. C'est la batterie qui l'emporta finalement. Une énième cigarette grillant entre les dents, le gamin esquisse l'un de ces sourires communicatifs qui rappellent chez lui une innocence morte-née. Il sourit à cette traque qui dure depuis toujours. La fuite de son passé, voilà ce qui le guide. Les jours heureux, peut-être, débouleraient-ils au coin du virage suivant? Le pied sur l'accélérateur, le batteur passe un village de pêcheurs à toute berzingue. Sur le rebord d'un muret jouxtant la route, un vieux marin lève le bras à son passage, en hurlant un nom d'oiseau incompréhensible. Dave ne le regarde même pas. Tout ce qu'il observe, ce sont les collines alentour qui l'enserrent et semblent le protéger des aléas d'une vie qu'il n'est plus en mesure de juguler. Kurt Cobain était l'un de ses amis les plus chers. Au fond de son crâne résonnent encore les mots des secouristes, ceux de la femme du chanteur aussi, qui s'était tiré d'une cure de désintoxication qui aurait pu le sauver. Chimère. Le mot sort tout seul, comme si le cœur du musicien subitement se mettait à déborder. Chimère, oui. Oui, voilà longtemps que Cobain ne pouvait plus être sauvé. Si ça n'avait pas été son flingue, la drogue se serait chargée de l'écorcher vif. Nirvana, son groupe, est mort avec lui. L'album Nevermind et ses multiples tubes derrière lui, Grohl s'est laissé submerger au départ de son ami. Les cendres, voilà ce qu'il reste à récupérer. Alors qu'il éclabousse sans cri égard une petite vieille sur le bord du chemin, Le batteur se souvient parfaitement du moment où il s'est rendu compte qu'il devait mettre les voiles. À l'enterrement de Cobain, derrière lui, s'était glissé comme une présence. Un souffle glacial dans son cou était venu le plonger dans une torpeur paniquée, engendrant un élan aussi irrationnel qu'inquiétant. C'était son passé qui se rappelait à son bon souvenir et les difficultés associées chevauchaient vers lui au grand galop. Non, assurément, Dave ne pouvait pas, ne devait pas se laisser attraper. Alors, il avait choisi le bout du monde, l'Irlande, dans un coin reconnu pour sa beauté sauvage et primaire, pour sa tranquillité et sa discrétion aussi. Comment ces démons pourraient-ils connaître le comté de Kerry ? Le musicien s'était rassuré comme ça au moment d'embarquer pour l'aventure. Il n'avait pris qu'un aller simple, laissant la porte ouverte à tout. Acculé contre le mur qui pourrait l'entraîner vers les profondeurs ayant englouti Cobain, Dave Grohl continue de rouler sans s'arrêter. Personne, plus personne au bord de la route. Ça fait pratiquement une demi-heure que ça dure. Grohl fredonne les mélodies du malheur, celles du dernier album de Nirvana. Il n'a pas allumé la radio depuis qu'il a récupéré la rutilante mais vieillissante Jeep de couleur rouge. Il a même débranché l'autoradio. Hors de question d'entendre l'un ou l'autre morceau qui pourrait le replonger au cœur du réacteur. Prenant une épingle, le batteur enchaîne avec une très longue ligne droite qui lui rappelle un peu certaines routes américaines. Le jeune homme en profite pour ouvrir grand la vitre. Il hume l'air frais du matin et pour la toute première fois depuis longtemps, se sent revivre. Voilà le futur qui arrive. Voilà le ticket pour la fuite inexorable du corps et de l'esprit. Je ne crains plus rien maintenant, se dit Dave Grohl, fébrile, les mains moites. Il se rassure comme il peut. Son langage non-verbal pourtant ne trompe pas. Il flippe. Il flippe comme un gamin qui se retrouve face au monstre du placard. Les yeux attirés par la mer sur laquelle le soleil timide vient se refléter, l'Américain ne remarque pas tout de suite la forme qui se tient là, immobile, sur le bord de la route. Un animal, un promeneur isolé. Dave Grohl plisse les yeux. Ralentit l'allure. Non, c'est pas possible. Non, son esprit lui joue des tours. Le musicien s'y reprend à deux fois pour être sûr. Fronce les sourcils comme ces vieux qui ont besoin de vers progressifs pour déchiffrer les petites lettres et se surprend à pleurer. De grosses larmes glissent sur ses joues. Sur le bord de la route, là, au bout du monde, c'est Kurt Cobain qui vient à sa rencontre. Non, Dave Grohl n'est pas encore capable de voir des fantômes. Celui qui se tient là, c'est un gamin qui fait du stop. Un gamin roux d'une dizaine d'années, à la mine fraîche et au visage empli de taches de rousseur. Si le gamin n'est pas Cobain, en revanche, il porte un t-shirt à manches longues noires et gris ou trône énorme, le visage impassible du chanteur de Nirvana. Oh purée, Kurt, même ici! Ah, on ne peut pas fuir ses blessures bien longtemps. Grohl la prend à ses dépens sur cette route de campagne irlandaise aux allures de fin du monde. Il ne s'arrête pas, incapable de soutenir le regard de ce petit garçon fan de Nirvana qui resta persuadé d'avoir croisé l'une de ses idoles là où il pouvait le moins s'y attendre. Dave Grohl se retrouve face à ses pires craintes. Lui qui cherche à fuir toutes les réminiscences liées à Nirvana ou à Cobain vient de se faire prendre à son propre jeu. Il ne pourra jamais lui échapper. Le chanteur de Nirvana dans la mort est devenu une icône. Jamais plus Dave ne passera une journée sans qu'un ado ou un fan de Nirvana n'arbore fièrement dans tous les endroits du monde des fringues à l'effigie de Kurt. La solution pour Grohl s'impose d'elle-même. S'il ne peut fuir ce qui le poursuit avec acharnement, alors il va devoir lui faire face de front. Telle une monture des temps anciens, voilà que la Jeep change de direction, accélère vers le point de rupture. Dave Grohl est de retour. Pour l'anecdote, ce moment est réel. Il a été raconté en interview par le musicien lui-même. Le pouvoir d'Internet a permis que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le rouquin aux suites caractéristiques s'est reconnu sur Twitter. Lorcan Dune, c'est son nom, est entré lui aussi dans la postérité par la petite porte. En Irlande, Dave Grohl vit un profond moment d'introspection, de remise en question aussi. La claque qu'il reçoit lui fait prendre conscience d'une chose. Fuir son passé n'est pas une solution pérenne. C'est le travail qui va lui permettre de se tirer d'affaire. Alors le jeune homme achète un billet retour et rentre aux États-Unis. Il ne va pas tarder à fonder un groupe qui marquera d'une pierre blanche sa présence dans l'histoire du rock'n'roll. Oui, mesdames, messieurs, sans aucun doute, Dave Grohl est un fabricant de légendes, de malédictions aussi. Mais l'un peut-il aller sans l'autre ? États-Unis, Shoreline, État de Washington. Cette jolie ville, située à quelques encablures de l'impressionnante Seattle, est le berceau d'un endroit des plus particuliers, les Robert Lang Studios. Il y a pour le monde de la musique des lieux iconiques qui ont façonné des destins, écrit la légende et bâti les plus grandes carrières. Eh bien, pour le rock américain, les studios Robert Lang sont une espèce de totem, de refuge aussi. Il y a l'eau tout près qui dort calmement sous les impulsions des notes expulsées par les fenêtres de l'immense bâtisse qui se dresse là, impassible. Le bois et la pierre de la structure forment les remparts entre l'art de la création et la réalité crue d'un monde auquel les musiciens qui intègrent le studio cherchent à échapper. Nous retrouvons Dave Grohl seul dans une pièce savamment agencée. Il est pieds nus, assis sur un tapis persan. La batterie du studio, un peu plus loin dans la pièce, est orpheline. C'est une guitare que le jeune homme porte en bandoulière. Ses mains griffonnent sur une feuille à carreaux les paroles d'un nouveau titre. Décidé à affronter son passé, le rocker n'a pas fait les choses à moitié. C'est ici même que Nirvana a tourné ses dernières sessions d'enregistrement au mois de janvier, soit 3 mois avant la mort de Kurt. Comme une malédiction ancrée dans la peau, la présence de son ami le guette à chaque mesure jouée, à chaque cigarette expédiée sur la terrasse. Dave, pourtant, s'accroche. Il a privatisé les studios qui ont vu passer Alice in Chains et tant d'autres pendant des semaines. C'est sa carrière qu'il reprend en main. Rien ne pourra l'empêcher de reprendre pied. Pas après l'épisode surréaliste vécu en Irlande. Pas après tous les efforts qui lui ont permis de vivre ce moment. Grohl est de ces musiciens qui peuvent toucher à tout sans complexe. Avant de taper comme un damné sur l'effet d'une batterie avec brio, son premier amour fut la guitare. Alors au moment de s'y remettre, tout n'est qu'automatisme retrouvé. Comme le vélo, rien ne s'oublie. Le voilà donc à plancher sur d'anciennes pistes qu'il avait enregistrées en solo, en parallèle de sa carrière avec Nirvana. Le technicien a mis un peu de temps à remettre la main sur ses morceaux, publiés depuis sous le nom de Late, en retard. La thématique du temps qui passe encore. Dave s'était dit que ses compositions ne pouvaient pas s'intégrer pleinement dans le projet Nirvana. Alors, il les avait mises de côté comme ça, en attendant un moment opportun. Cet instant venait de le cueillir sur une route lambda d'Irlande. Mais Grohl dans cet élan de création, ne veut pas s'entourer de comparses, ni du guitariste de Nirvana, ni de potes nombreux qui attendent avec impatience un coup de fil. Non. Non, il va tout faire tout seul. La guitare et la batterie, c'est facile, évidemment. Grohl se trouve être dans son jardin. Mais un groupe sans basse et sans chanteur, ça ressemble pas à grand-chose. Alors Dave s'y colle. C'est cela qu'il écrit sur sa feuille à carreaux, gribouillée dans tous les sens. Des paroles, des notes, des ajustements. Jamais il n'avait encore fait ça. Sortir de sa zone de confort, voilà ce qui le pousse à aller plus loin, toujours. Ce projet solo prend le nom de Foo Fighters, piqué d'une expression de l'armée qui qualifiait ainsi les ovnis. La nouvelle de son retour se répand comme une traînée de poudre dans le milieu des agents et des journalistes spécialisés. Le Nirvana 2.0 vient de naître dans le studio dans lequel Cobain a enregistré pour la dernière fois. Ben, l'histoire est belle, presque mystique. Oui, mais c'est pas parce qu'il joue de la basse et qu'il chante sur son premier album qu'il est bon. Il aime pas sa manière de chanter, à vrai dire. Et au technicien qui l'encourage à continuer, il répond que son timbre n'est pas assez bon, son coffre pas assez travaillé. L'album, donc, ne s'écoule qu'à quelques centaines d'exemplaires. Une minuscule miette dans l'univers de la musique américaine de l'époque. Mais Dave ne se relance pas dans le bain pour la gloire. Il l'a connue. Cette divinité capricieuse, capable de tisser, mais aussi de défaire les fils des destinées. Sa motivation est bien plus profonde, bien plus personnelle. Foo Fighters, deux mots pour faire face, deux mots pour revivre. Ce rebond que Dave Grohl tente d'initier après la mort de Cobain est déjà une marque d'un courage extraordinaire. Comment pourrait-on blâmer le musicien qui, après avoir touché le Graal du bout des doigts, se voit emporté dans les abîmes ? Dave Grohl, pour Nirvana, est bien plus que le cinquième batteur de la formation. Kurt Cobain était très exigeant sur ce qu'il voulait entendre en rythmique. Les uns après les autres, les musiciens se voyaient éconduits, au point où Nirvana semblait ne pas pouvoir trouver le batteur idéal, celui qui leur ferait franchir un palier. Ce gars, ce fut Dave. De manière incontestable, avec ses influences multiples, parfois très éloignées du rock. Il avoua notamment s'être inspiré du disco pour l'album Nevermind. Le riff de batterie de Smells Like Teen Spirit est tellement célèbre que tous les fans de rock l'ont en tête. Pas le chant, pas la guitare, non, la batterie. Il faut dire que Dave Grohl, avant même de devenir une icône pour les fans de Nirvana, est un musicien au talent bien affirmé. Pendant 4 ans, il a tenu la baraque chez Scream, un groupe punk rock originaire de Washington DC, ville dans laquelle il a passé la majeure partie de ses jeunes années. Notre homme se lance donc 6 mois après la mort de Cobain dans une aventure qui se veut aux antipodes de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Sur la scène punk, pour les fans de Scream, sur la scène grunge, pour ceux de Nirvana, Grohl est déjà un phénomène. La facilité, assurément, aurait été d'y retourner, oui. Oui, mais voilà, Dave vient de prendre tout le monde à contre-pied. Et vous pouvez me croire, c'est pas prêt de s'arrêter. Ce qui le motive à faire de ce projet quelque chose de grand, de différent, c'est avant tout une vie personnelle qui part en miettes. La mort de Cobain et la fin de Nirvana sont évidemment en frontispice, mais comme les catastrophes volent généralement en escadrille, Jenny, sa femme, le délaisse de plus en plus. Elle ne supporte plus cette noirceur qui gagne l'âme de son mari et commence à parler de divorce. Tout part à volo pour Dave. Les gens qui écoutent la petite centaine des exemplaires de son album solo sont cependant estomaqués. Il se dégage quelque chose d'absolument incandescent dans cette manière de faire de la musique, de cracher un mal-être et une envie de se battre contre les fantômes d'un passé encore frais. Tous disent alors la même chose. Dave doit lancer un véritable groupe, rester au champ, et faire connaître son nouveau projet en partant en tournée dans le monde entier. Mais vers qui se tourner ? Christ, l'ancien bassiste de Nirvana qui vient de l'aider en studio pour quelques prises ? Ah, ce serait attiser le feu du groupe disparu. Mauvaise idée. Pourtant, et c'est la croix qu'il porte, telle une malédiction, Grohl ne parvient jamais à se détacher totalement de l'ombre pesante de Cobain et de son ancienne formation. Il engage aussi le guitariste live de Nirvana. Les autres larrons sont des amis de longue date, ayant joué dans d'autres groupes. Les Foo Fighters, déployant leurs ailes, courent le monde des festivals et des scènes d'importance pendant plus d'un an. Et puis, Gil Norton, un de ces producteurs que le rock peut bénir d'avoir trouvé, prend le groupe sous sa coupe et sort un album en 1997 qui va faire connaître les Foo Fighters au grand public. Il y a néanmoins quelques hics. Dave, passé de la batterie au chant et guitare, ne supporte pas son nouveau batteur. Lassé, il décide de faire réenregistrer l'opus une deuxième fois, en prenant en main les rênes de la rythmique derrière les fûts. Les frictions dans le couple de Dave rejaillissent dans la musique qu'il compose. Le titre « Everlong » peut en témoigner. Malgré le divorce qui se profile, malgré le renvoi de son batteur originel, malgré les quelques critiques qui évoque un groupe encore loin d'être mûr, le musicien semble en passe de réussir son incroyable pari. Exister en dehors de l'ombre de Cobain. Mais vous le savez, la vie est facétieuse. La malédiction, loin d'avoir disparu, attend patiemment son heure. Dans l'ombre, elle le guette. Dans le bonheur, elle le traque.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes en 1997. Les Foo Fighters viennent de se faire un nom sur la scène rock mondiale. Pourtant, c'est un Dave Grohl particulièrement blasé que nous retrouvons à Washington. Dépité même, oui, ce serait plus juste. Appuyé sur le comptoir d'un bar, il attend un pote. Grohl enfile les pintes et les whisky à la recherche de réponses qu'il ne trouve pas. Dans une pochette, à côté de lui, se trouvent les papiers de son divorce. Jenny a fini par obtenir ce qu'elle demandait depuis un moment, à savoir la séparation définitive, pure et simple. Mais dans la vie de Grohl, la malédiction aime à frapper deux fois. Son guitariste le lâche. Pat, qu'il connaît depuis la période de Nirvana, refuse de reprendre une vie de tournée. Son argument ultime a mis les nerfs du musicien à rude épreuve. « Non, tu comprends, Dave. Jenny est aussi une amie. Je suis obligé de choisir un camp. » Un camp ? Son pote le lâche par souci de loyauté envers son ex-femme ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? En bref, la tête de Grohl est prête à exploser et l'ombre derrière lui ricane. Les soucis ne font que s'accumuler. Les Foo Fighters doivent repartir en tournée, mais les voilà amputés de leur guitariste et de leur batteur que Dave a viré. Ah, le temps presse. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors Dave a accepté de boire un coup avec ce pote qui connaît un bon batteur, paraît-il. Et voilà qu'il arrive. Cet ami, qui porte une chemise de bûcheron à carreaux rouge et bleu et une barbe épaisse et mal taillée. Enjoué, il est heureux de retrouver Dave, qu'il n'a pas vu depuis un moment. Tu sais, Dave, il est vraiment bon. Hein. C'est mon cousin. Ah, ton cousin. Allons bon. Grohl ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. Le nombre de frères et de meilleurs amis soi-disant musiciens qu'il a dû éconduire. Les doigts de ses mains ne suffisent plus à les compter. Ah, c'est l'enfer. Mais l'autre en face se rend bien compte du scepticisme ambiant. Il assène donc son argument massue. C'est le batteur live d'Alanis Morissette. Non, ne va pas croire que je te fais perdre ton temps, hein. Dave Grohl accepte donc de rencontrer cet as des fûts, un certain Taylor Hawkins. La vie souvent nous surprend. Un moment fugace peut devenir déterminant pour la suite d'une existence. En une fraction de seconde, tout peut basculer, alors que tout semblait perdu l'instant d'avant. C'est exactement ce qui va se passer pour Dave lorsqu'il rencontre Taylor. Ce dernier est une pile électrique, un de ces mecs dont le sourire transperce l'âme de celui qui le regarde. Hawkins est un excellent batteur, certes, mais encore mieux. Il comprend Dave comme personne n'a pu le faire avant. Il suffit aux deux hommes de 5 minutes pour se rendre compte de l'évidence. Ils sont faits pour devenir les meilleurs amis du monde, et mieux, pour collaborer. Les Foo Fighters, avec le trublion blond, tiennent leur batteur. Pour le guitariste, Dave fait le choix de reprendre celui de son premier groupe, Scream. « Ah, vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures », nous disent les grands-mères. Ils ont sans doute pas tort. Le nouveau souffle inattendu, qui vient revigorer la formation musicale en perte de vitesse, est absolument incroyable. Il emporte tout sur son passage. Il faut dire que Taylor est un moteur qui s'impose de lui-même, par sa hargne, ses idées, son immense connaissance de son instrument. Dave est aux anges. Il pense que le mauvais sort est conjuré. Il se trompe lourdement. Taylor Hawkins est du genre à aimer la vie. Trop, même. Ouais, il la brûle par les deux bouts. Voilà que le spectre de Cobain s'immisce de nouveau dans l'esprit de Dave. Lorsque enchaînent les cuites et le moment d'égarement, les uns et les autres tentent de raisonner le nouveau batteur des Foo Fighters. Sa réponse est limpide. Vie, fort et vite, et meurt jeune. Ah, l'adage est connu. Employé depuis des temps immémoriaux, il pourrait bien conduire une nouvelle fois Dave Grohl aux portes du malheur. Le groupe nouvellement organisé est une véritable machine de guerre. Il allie savoir-faire, expérience et fougue. Le cocktail gagnant pour un groupe de rock qui cherche à se faire un nom au panthéon des meilleurs. Le guitariste, nouvellement engagé, finit néanmoins par se faire la malle. Mais ça c'est une autre histoire. Non, c'est le personnel qui, encore une fois, va l'emporter alors que les Foo Fighters sont en train d'enregistrer leur 3e album. À Londres, dans l'une de ces soirées où règnent la dépravation et les drogues en tout genre, Taylor va s'emporter, enchaînant les prises. Souvenez-vous de l'adage. Hawkins s'emploie à l'employer au pied de la lettre. Une prise de trop et c'est l'overdose. Lorsque les secouristes parviennent à l'hôpital, un seul mot est murmuré. Héroïne. Cette fois, la situation est très grave. Taylor, devenu un véritable frère pour Dave, risque de mourir à chaque instant. Le coma qui le saisit se prolonge de jour en jour et l'espoir d'une survie s'amenuise. 15 jours d'enfer pour Dave et les autres membres des Foo Fighters. 15 jours d'une angoisse et d'une tristesse retrouvées. Taylor se réveille et Dave, lui, coule. Est-ce ça la rançon pour être célèbre? Perdre ses amis les plus chers les uns après les autres? Le leader du groupe s'y refuse. Trop de mal a déjà été fait dans toute cette histoire. Il s'enfuit encore, mais cette fois, il ne commet pas la même erreur. Se couper de tout, au bout du monde, ne donne rien. Alors il va se réfugier dans la seule chose qu'il fait vibrer, la musique. Il intègre au pied levé en tant que batteur les Queens of the Stone Age, qui ont besoin de renforts pour la réalisation d'un album devenu depuis lors l'un des plus célèbres de l'histoire du rock, Songs for the Deaf. L'opus est jalonné de tubes sur lesquels Dave joue. Une nouvelle fois, il entre dans l'histoire de la musique, le tout dans un nouveau projet. On ne l'arrête plus. Pourtant, le groupe qu'il a formé est amputé de sa tête, alors il accepte de retourner en studio. Graduellement vont sortir des albums meilleurs les uns que les autres. 2002, 2005, 2007, 2011, 2014, 2017, 2021. Les années passent et les Foo Fighters s'installent dans le paysage chaque fois un peu plus. Si bien que pour une légion de fans, Grohl n'est plus le batteur de Nirvana. Non, il est le chanteur des Foo Fighters. On pourrait croire alors que l'extraordinaire musicien vient de rompre les chaînes du mauvais sort. Ce qui le reliait à la malédiction, c'était la figure de Kurt Cobain. Comme un esprit frappeur planant au-dessus de son existence, le disparu l'empêchait même d'avancer et de faire face aux écueils de la vie. Mais voilà maintenant que les choses sont différentes. Il est le chanteur des Foo Fighters, ouais, avant d'être un ancien membre de Nirvana. Le rapport de force est inversé et ses démons retournent dans l'ombre, la mine grise. Dave Grohl a gagné. Le voilà propulsé au rang de star international. Ses paroles sont écoutées et, malgré quelques scandales, il tient la baraque pour tout le monde. Mais derrière l'imposant leader se tient son frère de cœur, l'homme qui lui a permis de rebondir. Lui souffre atrocement. Taylor Hawkins, le facétieux rescapé, n'a pas réussi à se sevrer. Et il s'enfonce, dissimulant derrière un sourire immaculé des préoccupations terribles qui rongent son esprit et fracassent ses espoirs. Un beau jour, Dave, qui le tient à bout de bras, aura le dos tourné. C'est là que les ombres qu'il a combattues toute sa vie viendront de nouveau le poignarder en plein cœur.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 25 mars 2022, à Bogota, en Colombie. Un soleil de plomb annonce le printemps à venir. Il fait chaud, mais le petit air frais qui descend des montagnes rend la situation des plus agréables. Ce soir, les Foo Fighters se produisent sur la scène du Estéreo Picnic. La base fan de la troupe de Dave Grohl et Taylor Hawkins est impressionnante en Amérique du Sud. Chaque fois qu'ils s'y produisent, c'est le bonheur absolu. La veille au soir, le groupe a vécu l'une de ces soirées comme seules les stars du rock les plus chevronnées sont capables de traverser. Dave a perdu de vue Taylor quelques heures. Chacun est rentré dans sa chambre d'hôtel au petit matin, dans le but de se reposer avant le show du soir. Oui, mais voilà. Dans la matinée, l'une des chambres s'agite plus que de coutume. Hawkins se réveille en sursaut avec des suées et des douleurs. Il ne tarde pas à se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'anormal, de grave même. Il appelle les urgences. Trop tard. Lorsque les secouristes se précipitent dans la chambre, le batteur est déjà mort. Sous le soleil de Bogota, Taylor Hawkins vient d'abandonner pour toujours son meilleur pote Dave. Avertis, les membres du groupe sont tirés de leur lit. Dave Grohl est effondré. Une nouvelle fois, les ombres viennent de s'immiscer avec fracas et désolation. Hawkins n'avait que 50 ans. Très vite, ce sentiment qu'il a assailli à de nombreuses reprises le torture de nouveau. Dave pourrait s'échapper pour tenter de se préserver. Pourtant, cette fois, le chanteur des Foo Fighters se refuse à abandonner. Il va se battre, au moins pour rendre hommage à celui qui vient d'être emporté par la malédiction qui poursuit Dave depuis des dizaines d'années. Cet ultime rebondissement plonge le groupe et leur leader dans un marasme qu'ils ont hélas déjà connu auparavant. L'expérience de la souffrance permet à tout le monde de voir les choses différemment. Dave a mûri. Il a appris que la fuite en avant n'est en rien une solution pour aller mieux. Il faut faire face, coûte que coûte. très vite, il faut s'organiser. La première chose à gérer est l'enquête de police ouverte afin de comprendre les circonstances du drame. Mais vous l'aurez peut-être déjà compris, le batteur a déconné la veille de son décès. Une dizaine, oui. Une dizaine de drogues sont retrouvées dans son sang lors de l'autopsie menée par les autorités colombiennes. L'examen révèle d'ailleurs que le cœur du musicien était bien plus gros que la normale et que depuis déjà longtemps, sa cage thoracique n'était qu'une grenade dégoupillée prête à exploser. Une vie d'excès aura eu raison du sourire communicatif et du talent de ce frère qui fut un support pour Dave Grohl. Le monde de la musique réagit en masse à la tragédie. Ils sont nombreux à rejoindre les Foo Fighters lors d'un hommage organisé en mémoire du musicien disparu à Wembley, rien que ça, le 3 septembre 2022. Parmi les présents, certains des musiciens de Led Zeppelin, excusez du peu. Une partie des membres de Queen, Alanis Morissette, pour qui Taylor avait joué. AC/DC, un des frères Gallagher et j'en passe. Une véritable haie d'honneur formée par les plus grandes stars du rock. Cela prouve à quel point Taylor était apprécié pour ses qualités humaines et musicales. Celui qui reste encore une fois, c'est Dave. Sur scène, il s'écroule à plusieurs reprises lors de ce show. La tête prise entre ses mains, la réalité le frappe en plein visage. Il aura néanmoins tenu bon pour participer à l'hommage à son frère de cœur. Le propre fils du disparu prendra sa place à la batterie pour le titre « My Hero », mon héros, tout un message. En 2002, alors que les Foo Fighters sont en pause à la suite de l'overdose de Taylor, le Billboard classe ses meilleurs titres. Trois morceaux sortent du lot. « You Know You Right » de Nirvana, qui sort en guise d'hommage et où le batteur est Dave Grohl. No One Knows, des Queens of the Stone Age, où le batteur est encore Dave Grohl. Et All My Life, des Foo Fighters, où le chanteur est, je vous le donne en mille, Dave Grohl. Impressionnant, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dave Grohl, malgré les pertes qui jalonnent son parcours, n'aura de cesse de revenir plus fort. C'est une véritable machine de guerre. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.